Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. Allons-y. Oh là là, les garçons, aujourd'hui, je suis tellement contente.
Ah bah c'est parce qu'on a encore un beau couple.
Oui, oui, et nous allons réentendre mon idole absolue.
Ah bon, on n'a jamais reçu Nicolas Sarkozy.
Hein? Mais non, moi, je veux dire, mon chanteur préféré.
Ah, voilà. Frédéric Fromet.
Oui, alors allez, on va l'entendre, mais enfin, c'est pas lui. Moi, j'ai manqué de m'évanouir quand il est venu dans l'émission.
Ah, si. Ouais, voilà. Cette émission, ça fait combien de temps?
Voilà.
Combien
de temps? Ouais, bon, vous avez trouvé ce Stéphane et cher Stéphane.
Et nous, on ne plaît pas, nous.
Je vous adore, mais c'est pas pareil.
Sinon, il y a un acolyte, une acolyte, à Stéphane Echer.
Ouais, c'est Olivia Cotte, c'est la femme la plus drôle de France.
Elle est drôle.
Ah, c'est pas la plus drôle de France, quand même.
Ah bon?
Il y en a une que je trouve plus drôle.
Déjà plus proche de nous, quand même.
Oh, les garçons, c'est vraiment trop gentil, vous êtes choux.
On est choux, mais ça n'a rien à voir.
Elle est drôle aussi, Olivia Cotte.
Ah oui, elle est drôle.
Mais pas autant que Virginie Hoc.
Ah ouais. Elle est hilarante, ses sketchs, ses personnages.
Stéphane!
Qu'est-ce qu'il y a? Je sais, ce matin, elle a pas dû déjeuner en paix!
Bonjour la France Inter, nous sommes le jeudi 1er novembre 2018, journée mondiale des véganes.
Oh là là.
Bonne fête à tous les bouchers. Nous allons accueillir Stéphane Echer aujourd'hui pour parler d'Europe, car il arrive aussi que la politique européenne éloigne les pays. On lui demandera s'il faut toujours obéir à l'État. Et puis pour le sketch, on emmènera Stéphane Echer dans les vestiaires de l'équipe suisse de foot. Ensuite, ce sera au tour d'Olivia Cotte de plonger dans la friteuse. C'est l'une des comédiennes les plus drôles qui soit. Et elle a parlé avec nous de la tournée d'excuses du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, pour avoir utilisé les données personnelles de ses abonnés. On évoquera aussi l'allaitement en public. Eh oui, c'est original.
Écoutez, c'est ma grande spécialité.
Qui monte sur le terrain de la blague, Alex?
Alors, figurez-vous que j'ai une belle équipe. Même en florilège. Mélanie Bauer, qui parlera justement musique New Wave et musique des Balkans pour Stéphane Echer. Mmh. Guillaume Meurice, loi alimentation. Nous sommes en mai 2018. Et puis, évidemment, journée mondiale des véganes oblige. Pablo Mira va traiter le sujet. Autant vous dire, ça l'intrigue. Et enfin, on terminera par Frédéric Fromet, qui lui parlera de la limitation de vitesse à 80 km/h.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bonjour Stéphane Echer.
Bonjour.
C'est d'arriver à la fin de cette heure.
Je suis là, je vais récupérer le dossier.
Respirez, Charline, respirez. Alors, vous êtes actuellement en tournée.
Je rougis vraiment, il y a des caméras.
Oui, moi aussi, c'est très gênant. Actuellement.
Regardez-moi
en tournée.
Ah non, il y a le.
Oui, oui. Non, je vous regarde. Non, parce qu'il faut que je donne le nom de la fanfare avec laquelle vous jouez. Vous êtes
difficile.
En tournée. Tractor. Tractorquestar.
Tractorquestar.
Exactement. Ouais. Avec Steph Lachef aussi, qui est la fille du groupe. Vous préparez aussi un album avec
ça fait longtemps que je prépare des albums.
Mais d'abord la tournée. Alors ma première question, oui. Stéphane Echer, vous jouez avec une fanfare. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, une fanfare. Comment est-ce que vous avez croisé cette fanfare? Vous avez dit c'est celle-là et je peux l'emmener en tournée avec moi.
J'ai quitté Berne, ma ville natale, à 16 ans. Je suis pas vraiment retourné jusqu'au moment, j'espère qu'il arrive très très tard pour vous, où vous devrez vous occuper de vos parents, qu'ils ne peuvent plus vivre dans des appartements, les mettre dans des maisons de retraite. Et ça m'a pris le temps de revenir à Berne, et j'ai remarqué qu'elle m'a vraiment formé cette ville, qu'il y a une espèce de mélancolie qui est revenue. Et je me disais, il y a une histoire à raconter à Berne, et comme je fais une grande promenade, et je croise cette fanfare fou furieux, le tractorquestar, qui travaille avec des sons de Balkan, mais qui vient aussi du jazz et tout ça. Et je me disais, c'est peut-être intéressant comme une histoire de... Ils sont 12, une histoire de Grimm. Et l'idée, c'était que tous leurs... Ils sont tous 28, 32 ans. Tous leurs mères étaient une fois un peu liées à moi et que c'est tous mes enfants. Comment on appelle ça qu'on a des enfants sans être mariés?
C'est félicitations. C'est une belle histoire.
Non, c'était l'histoire.
Un scandale, on appelle ça, monsieur.
Et que je reviens à Berne pour faire quelque chose enfin avec mes fils. Et puis ça manquait la fille. C'est un peu Gebrüder Grimm. C'est Flachef qui arrivait. Et c'est une connerie, comme je raconte ici. C'était vraiment la même. Et tout à coup, ils ont dit, ça nous sonne comme un bon plan pour passer 2018 avec vous. Ils ont dit vous, parce qu'ils ne savaient pas que c'est leur père.
Quand vous me dites vous, je le prends pour moi.
Voilà, c'est parti
Stéphane
comme ça.
Stéphane Echer, donc, comment est-ce qu'on chante avec une fanfare? Parce que
c'est difficile.
Il n'y a pas de micro, c'est tambour grosse caisse, c'est les cuivres, ça envoie.
C'est très mauvaise idée, je vous dis. Non, honnêtement, j'ai déjà eu une mauvaise idée avant. J'ai travaillé avec des automates, j'ai fait une tournée avec
tout seul avec
automates.
Les robots.
C'est plus rentable, il ne faut pas les loger, il ne faut pas les payer.
Les autres, ils boivent, c'est tout.
Ah oui, d'accord. Ouais,
c'est un peu comme les chameaux.
Mais donc, on doit trouver comment placer ça.
C'est très difficile, oui. J'ai vraiment longtemps... beaucoup, parce qu'il y a, un côté un peu fanfare. C'est quand même très masculin, la militaire, moi, le vieux pacifiste. Et puis, j'ai trouvé cette fille, j'ai dit, tu fais quoi? Ou du hip-hop? J'ai dit, oh là là, le vieux qui fait du hip-hop, ça sentait vraiment mauvais. Mais quand on s'est mis sur scène, il y a une espèce de chimie, une espèce de folie, une espèce de... une musique assez musculaire qui devient, que j'ai perdu depuis mes débuts, quand on s'est rencontrés, quand je faisais de l'électronique. Et puis, oui, j'ai travaillé pour trouver ma place.
Et on va entendre tout à l'heure, bien sûr, un extrait, et Mélanie Bauer va nous en parler. Une dernière petite question, est-ce qu'une fanfare, ça peut tout jouer? Est-ce que ça peut faire Rage Against the Machine ou Hotel California?
Absolument, oui. C'est
ou Prisonnière, qui est un des titres que vous reprenez en fanfare et qui est pourtant très slow,
très
toi.
Oui. Ouais. Non, ça marche. Mais oui, j'adore les défis. J'ai une vie assez ennuyeuse. Et si je vois un défi, je dis ça c'est impossible, j'y vais. Mm-hmm. Pour rendre les choses possibles, c'est un artiste un peu qui regarde quelque chose, qui dit ça fonctionne pas, essaie de le faire fonctionner.
Charline, c'est très bien joué du kazoo.
Oui, voilà,
c'est le début de la fanfare.
Voilà. Essentiellement le mi bémol, je vous tiens très très bien. Stéphane Echer, est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? C'était mon autre question, mais de toute façon, vous avez compris où je voulais en venir. Donc on va plutôt laisser Mélanie Bauer parler de Tractor Star et Steph Lachef.
Exactement, tout le monde aime Stéphane Echer. Ses petites fautes trop mignonnes quand il parle, il roule les R en français. Et ses hésitations qui lui donnent un air timide, humble, cette forme de pudeur qui humanise une star de la musique en la rendant accessible. Au départ, Stéphane Echer, c'est la New Wave. Et ce qui est intéressant avec la New Wave, c'est qu'elle échappe justement aux diktats anglo-saxons du rock et de la pop. On y revient, hein. C'est qu'elle... elle utilise l'esthétique russe, communiste, la rigueur allemande. Elle va chercher son inspiration dans les usines et les premiers robots avec ces bruits électroniques qui font aujourd'hui tellement partie de notre quotidien qu'on ne les entend même plus.
C'est belge.
Le français.
Les débuts d'Echer, c'est donc Growzone, un son et surtout une recherche de sonorité via la technologie. Quand on entend ça et qu'on a penché un peu son oreille vers les musiques électroniques des années 60, 70 et 80, de Schaeffer à Kraftwerk, pardon Charline, name dropping, on comprend facilement la gourmandise geek avec laquelle Stéphane Echer a dû préparer sa tournée seule en scène avec des instruments automates. Mais comme les artistes sont des gens extrêmes, on comprend aussi qu'après une centaine de concerts tout seul en scène, il ait eu envie de partir dans une direction totalement inverse pour son nouveau live. L'inverse, c'est son enfance, ses racines, un aspect de lui qu'on connaît mal, tout simplement car on ne connaît pas du tout l'histoire du peuple semi-nomade, ça c'est selon Wikipédia, le peuple yiddish. Alors oui, on avait bien remarqué ses cheveux longs et son look gypsy, mais je dois avouer que les journalistes ont peu creusé le sujet car c'est une sale histoire de l'histoire.
Nous avons décidé de vaincre le mal du nomadisme à sa racine, chez les enfants, par des mesures éducatives et systématiques.
Pendant près de 50 ans, l'institution Pro Juventute va mener en toute impunité une guerre totale contre des nomades, des yéniches, qui sont pourtant tous de nationalité suisse. Une opération anti-nomade qui va durer jusqu'en 1973.
Et oui, des nomades, des enfants arrachés à leur famille, des familles éclatées pour lesquelles la musique est l'ancrage de la culture. Une culture que Stéphane Echer racontera en participant au documentaire « Yenish Sounds ».
Wenn man dann über seinen Großvater plötzlich das Wort Jänisch gehört.
Eh oui.
Ça sait, pourquoi m'a dit qui gars?
On dirait qu'il parle à l'envers, hein. Vous dites, on est un peu différent. Ça explique votre personnalité complexe. Bref, à cette lumière, on comprend pourquoi vous aimez autant Sainte-Marie de la Mer. C'est le bastion spirituel camarguais des Gitans. Et c'est d'ailleurs là que vous rencontrez Goran Bregovic, l'ancien ami d'Emir Kusturica, pardon Charline, pour le name dropping, pour participer à l'album Champagne for Gypsy, premier pas vers le spectacle dont on parle ce soir.
Ich weiß nicht, köra Ich weiß ich nicht so kompliziert doch Faulzer
Oui, car voilà ce que vous faites aujourd'hui après Die Automaten, c'est Die Grosse Familie, avec une fanfare pour réarranger vos chansons et une rappeuse dont j'ai découvert le travail grâce à vous et qui est extraordinaire. En spécial guest, la rappeuse beatboxeuse Steph La Chef. Douze musiciens, dont trois batteurs percussionnistes et neuf souffleurs qui viennent de Berne, une fanfare balkanique qui s'appelle Traktor Kestar, une folle énergie percussive qui nous permet de mieux comprendre la richesse de votre son qui part de la new wave et de la pop pour aller chercher finalement tout au fond de votre mémoire vers des territoires snobés par la mondialisation, les Balkans. Une carrière qui puise à chaque nouveau projet un petit peu plus à l'intérieur de vos multiples vous, comme on creuse la terre pour y chercher l'eau de nos rivières souterraines. Elle vient donc de tout au fond de vous, cette nouvelle version de Combien de temps, pas encore masterisée ni même finalisée, mais en cadeau pour vous et même que je parle dessus.
Le plaisir facile, les amours d'un soir, main de noble et subtil dans le nœud du foulard. Combien de temps, si on reste face à face sans un mot, sans une gomme qui efface. Combien de temps, et je bois, et je suis sous de toi. L'ombre de mes cris, flèche invisible. L'ombre de mes cris comme une scie. Les mots inutiles, sourire illusoire à vos questions futiles. Je réponds au hasard. Combien de temps, si on reste face à face sans un mot, sans une gomme qui efface. Combien de temps, et je bois, et je suis sous de toi.
Stéphane Echer et sa fanfare
Tractor Questar et Steph Lachef. On a entendu combien de temps? Version non masterisée.
Oui. Donc pas ça même sera pas fini mixé.
Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour ce cadeau. Et premier sujet avec vous, Stéphane Escher. Oui. L'Europe parvient à se coordonner pour interdire le plastique, sauver les banques et faire circuler les fromages. Mais pas pour accueillir les réfugiés ou contrôler l'évasion fiscale. Oui, là, les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Les politiques européennes nous éloignent. Les politiques européennes nous éloignent alors que la culture nous rassemble. Alors on se demande qu'avons-nous encore de commun, nous les Européens, à part être unis dans le rejet de l'autre quand on renvoie l'Aquarius vers l'Espagne. Reprise de la chanson d'Arnaud.
Ouais. Belgique, rencontre Suisse pour parler de quelque chose. Ah ouais. Compliqué.
C'est compliqué. Ouais. Alors, Stéphane Escher, vous venez d'un pays où on parle allemand, français, italien. Vous vivez en France, vous avez vécu en Belgique, vous avez baigné dans la culture slave. Et vous êtes.
Vous avez un compte au Panama.
vous êtes suisse et vous êtes un symbole du citoyen européen. Donc, on a très envie de vous demander qu'est-ce qu'on a en commun. Les Européens, et comment vous voyez l'Europe aujourd'hui, quoi.
Voilà. Ça commence un peu triste, l'Europe. C'est un viol, non? Et ça a commencé, la princesse, elle est partie de, je sais plus comment ça s'appelait en français. Aujourd'hui, c'est Israël, la Syrie et le Liban, où elle est partie. Et puis,
on est parti sur la mythologie, là.
C'est la mythologie grecque.
Ah, oui. C'est le taureau.
Zeus qui s'est transformé en taureau, qui l'a tiré vers l'Est.
Mais c'est bien de reprendre par la base.
Moi, je pense. C'est un viol avec un grec qui s'est transformé en taureau. Et puis, la pauvre fille est arrivée, un peu perdue. Et je pense, c'est une très belle image.
Ouais.
C'est comme, c'est difficile, mais c'est intéressant pour trouver une histoire qui pourrait nous réunir. Parce qu'il y a une culture incroyable, une histoire malheureusement sanglante.
Oui,
il y a de l'argent continent. Maintenant, vous avez formé de l'argent. Mm-hmm. Est-ce que c'est la bonne solution? Je doute. Il y a... Moi, je veux vivre nulle part ailleurs que dans ce bordel.
Voilà. Ouais. Dans le bordel européen.
Je veux être proche de l'Italie, de l'Espagne. Ouais. J'habite en Camargue, ça veut dire, si vous avez le temps, regardez un peu comme la Suisse fait un bordel comme ça, parce que les langages, les croyances, les richesses sont, tout le monde est très riche, mais il y a des plus riches en Suisse.
Ouais.
Et votre problème de l'Europe, parce que Suisse, je dis votre, c'est la taille. La taille et l'idée que ça doit fonctionner économique avant que ça doit fonctionner moralement ou culturel. Voilà. Fini, j'ai tout dit.
Et c'est vrai, il y a un magazine pro-européen qui s'appelle Taurillon.org qui essaye de résumer ce qu'on a en commun culturellement. Déjà, vous l'avez dit, Stéphane Escher, on a souffert des mêmes guerres, donc ça lie déjà beaucoup. Et puis, on a admiré les mêmes courants artistiques, on a lu les mêmes romans, écouté les mêmes symphonies.
Normalement, fait par des méchants allemands.
Philosophie Magazine pose cette question, faut-il toujours obéir à l'État? Alors, tant qu'on se pose la question comme ça à la cantonade, c'est qu'on vit normalement encore en démocratie. À l'heure où l'État veut reconquérir certains territoires, comme les ZAD, bien sûr, ou les banlieues, imaginons qu'il y parvienne complètement. Et là,
je crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse tout quand le petit bonhomme est vert. Depuis que je suis plus une Kaira, j'ai largué mon pitbull, j'ai pécho un chihuahua.
Ah ouais? Ben moi, mon caniche s'appelle Scott, et je ramasse toujours quand tout fait sa crotte. Je suis passé du bruit des perses à secouriste, et j'ai troqué mon Scarface pour le choriste.
C'est un extrait du film d'animation Les Lascars d'Emmanuel Klotz et Albert Pereira Lazaro. Film d'animation. Voilà cette question posée dans Philosophie Magazine. Et pourquoi a-t-on pensé à vous en voyant cette question? Faut-il toujours obéir à l'État? Je me demandais comment vous vous accommodez de l'État ou des États, parce que vous êtes une forme de nomade aussi, même si vous êtes un peu sédentarisé en Camargue, en France. Comment est-ce qu'on s'accommode de l'État? Est-ce que cette question, elle vous interpelle? Faut-il toujours obéir à l'État?
Je suis suisse, ça veut dire mon idéologie politique, elle a vraiment grandi quand je suis venu payer J'attends vos applaudissements. Mes impôts en France, parce que normalement, merci beaucoup.
Bravo.
Merci, ça me touche vraiment.
Parce que
c'est pas facile, vos impôts, je trouve c'est très... Mais voilà, normalement, les chanteurs, ils font l'opposé, ils sont français, ils vont payer.
Mais pourquoi vous avez fait l'inverse? Pourquoi?
Parce que j'aime pas tricher.
Ça vous dépasse, Dupont-Moulin.
Non, c'est pas ça, c'est que si vous étiez resté en Suisse, vous ne trichiez pas, puisque vous êtes citoyen suisse.
Non, moi j'ai un enfant qui utilise les écoles françaises, j'utilise les routes françaises, j'utilise pas vos guerres, par contre, moi, le Mali, ça me fait moins. Et voilà, mais moi je suis habitué. La question de l'État, pour vous, c'est quoi l'État, vite fait?
Ah bah il retourne la question.
Non,
c'est le sujet. Ça peut être celui qui peut assurer des services, qui peut assurer une forme d'harmonisation.
Si, c'est peut-être l'ensemble des lois qui régissent.
La Constitution joue quelque chose. Je crois, pour moi, tout en haut, c'est la Constitution. Après, c'est l'État qui doit
le régler. Que justement, en Suisse, on puisse intervenir régulièrement. Enfin, en tout cas, il y a cette espèce de possibilité de voter.
C'est ça que je voulais vous dire. La Suisse fait la Constitution. Et là, ça veut dire l'État, c'est le peuple. Ça veut dire si on fait des conneries, on sait à qui on parlait. Vous, par contre, vous faites la chose suivante. Vous prenez votre voix, vous les mettez dans une urne. Déjà deux images un peu bizarres, non? Donner sa voix, mettre dans une urne, et pendant 5 ans, vous subissez une idée d'aristocratisme inventée par un Suisse, par Rousseau, qui dit « Non, choisissez le meilleur ». Ça, moi, je comprends pas du tout votre système. Je trouve aussi, vous êtes trop grand, encore une fois. Je suis pas anarchiste, mais je trouve que la petite taille est beaucoup plus simple à dire.
Et la monarchie aussi. La monarchie, c'est plus simple. Et c'est vrai que Rousseau est un penseur que vous aimez beaucoup. Il est cité notamment dans cette question, souvent, du contrat social. Notre liberté est inaliénable. Il est irrationnel d'en faire don à l'État, puisqu'elle fait le prix de notre existence. Rousseau, vous avez eu comme lui une illumination?
Non.
J'ai
eu l'arrogance de finir un travail qui n'a jamais fini. J'ai fini un grand travail de Rousseau. C'est un herbier sur l'île de Saint-Pierre. Très arrogant de moi, j'ai fini un herbier. Non, moi je suis suisse. Et voilà, pour moi, la Constitution, c'est la chose qu'il faut s'occuper. Mm-hmm. Et chez vous, c'est des élus qui s'occupent de la Constitution. Qui font ça peut-être par leur intérêt un petit peu, je sais pas, peut-être.
De Gaulle a fait croire aux Français qu'ils avaient besoin d'un homme fort.
Et depuis, c'est ça, exactement. Non. Les Français, vous adorez le royalisme. C'est beau,
non,
le royalisme.
Quand même.
Non, mais les Français,
c'est vrai.
Mais voilà, peut-être pas tous les 5 ans. Votez tous les... Nous, on vote tous les 3-4 mois. Voilà. Et des choses intéressantes.
On vote en consommant aussi, donc heureusement.
Comme les Italiens qui font des journées où ils achètent rien. C'est vraiment...
C'est ça.
Dangereux pour l'État. Ouais.
Et voilà, voilà. Stéphane Escher, on vous donne le bac philo avec la complicité de Rousseau qui vous inspire énormément. Stéphane Escher, on va faire
avec moi.
Avec vous, bien sûr.
Je ne sais pas lire.
Allez-y. Nous sommes dans le vestiaire de l'équipe de Suisse.
Oui, oui.
L'entraîneur, c'est Charline et nous trois, nous sommes des joueurs de l'équipe suisse.
Allez les gars, on se motive, la Coupe du Monde ça commence maintenant.
Ja, wunderbar.
Si, la Coupe del Mondo.
Attendez, il n'y en a pas un qui parle français là?
Nein.
Non. C'est moi.
Ah, ouf. Ouais,
mais tu sais coach, pour faire une bonne équipe de Suisse, faut un tiers de Suisse allemand, un tiers de Suisse italien et un tiers de Suisse romand.
Comment est-ce qu'ils font pour se parler sur le terrain alors?
Mais coach, on n'y va pas pour gagner.
Mais bien sûr que si, enfin.
Ah bon?
Nein, nous sommes déjà assez riches.
Bon, vous savez contre qui on joue?
Ja, Brésilien.
Exactement, Stéphane, les Brésiliens.
Si, tutti de homosessuali.
Ah non, Alessandro, pas trop homophobe.
Non, mais il faut pas lui en vouloir, c'est le côté macho du Suisse-Italien.
Ouais, bon. Et puis profitez-en, vous êtes les seuls Italiens du mondial.
Les Italiens sont à la maison, ils peuvent simuler dans la chambre à coucher.
Silence! Vous êtes bien préparés pour le match?
Ja, natürlich, Holdrio. Ich habe viel Ovomaltine gegessen.
Mais qu'est-ce qu'il dit là?
Je crois qu'il dit qu'il a mangé plein d'Ovomaltine.
Ah, ça va les impressionner, les Brésiliens, ça.
Si, ballerini, les danseuses.
Attention, Alessandro.
Scusi.
Ok, donc pour le match, on va jouer en 4-4-2.
Ma che 4-4-2, dobbiamo votare.
Alors, il va organiser un référendum d'initiative populaire contre le 4-4-2.
Bon, alors, ceux qui sont en faveur du 4-3-3, levez la main.
Ma, che merde.
Bah oui, bah t'es tout seul, mon gars. Donc on joue en 4-4-2, ok? Les Suisses allemands en défense.
Qu'un problème, normal. Ouais, c'est écrit avec A.
Voilà, les Suisses francophones au milieu.
Voilà, ni vraiment à gauche, ni vraiment à droite.
Et les Suisses italiens, vous jouez par terre pour que les Brésiliens se prennent des cartons. Voilà.
Ah si, comédia de l'art.
Voilà, exactement, Guillermo. Bon, vous rappelez l'objectif?
Das Spiel gewinnen.
Non, pas gagner le match, vous êtes dingue ou quoi?
Bah, égalité.
Bah, un match nul, et pourquoi pas s'emballer un mars?
Bah, c'est quoi l'objectif, coach?
Encaisser moins de 15 buts. Et je sais que vous pouvez le faire.
Ouais.
Il est l'heure de passer à ce qu'on appelle chez nous le comique d'investigation, en la personne de...
Eh oui, on n'en connaît qu'un. C'est Guillaume Meurice, et heureusement. Il est allé à l'Assemblée nationale. Ah, là, il est bien. Là, il aime bien. Il rencontre ses petits copains, notamment l'un de ses meilleurs amis. Hein. Jean Lassalle. Allez, ça parle loi alimentation.
Bah, vous en avez marre de bouffer de la merde, les amis? Eh bah, ben, il va falloir s'habituer et voter définitivement la loi alimentation à l'Assemblée, qu'on appelle Egalim, et qui fait la joie de tous les gastro-entérologues du pays. L'action Smecta a pris 12 points à la Bourse de Paris. Faut dire qu'ils y sont allés fort. Nicolas Hulot n'a jamais avalé autant de couleuvres d'un seul coup. Gourmand croquant, les couleuvres radicaux. En avant les pesticides dans les biberons, les antibiotiques dans les marmites. Plus rien à taper. On va tous crever, mais avec panache. Et moi, je suis allé voir les députés ce matin pour fêter ça avec eux, puisqu'ils ont correctement rien branlé. Pour que rien ne change, on commence par une première promesse passée à la trappe, la vidéo obligatoire dans les abattoirs, et on écoute le député de La République En Marche, Guillaume Chiche.
On peut légiférer en disant, par exemple, on met de la vidéosurveillance dans tous les abattoirs. Ça pourrait être très bien.
Bah oui, pourquoi vous l'avez
derrière,
pas fait alors?
Eh bien derrière, si dans la vie réelle, les exploitants des abattoirs ne s'y plient pas, eh bien, je pense qu'on n'aura pas gagné pour autant.
Non, mais ça veut dire qu'il ne faut pas voter des lois parce qu'elles ne vont pas être appliquées, elles risquent de ne pas être appliquées.
Non, ce que je dis, c'est qu'une loi, elle doit être comprise. Elle doit être claire.
Ah, là, si on dit par exemple la vidéo dans tous les abattoirs, où est-ce que vous ne comprenez pas?
Moi, je ne légifère pas juste pour me faire plaisir.
Non, ça, on avait pigé, et il légifère pour faire plaisir à Macron et à Charal, ça, on avait bien compris. Alors, pour être précis, la vidéo, elle pourrait exister sur la base du volontariat. Donc, il faut qu'il y ait un abattoir qui se dise. Tiens, ben regardez, je vais vous montrer comment on défonce les vaches à la tronçonneuse ou on castre les porcelets à vif. Vous allez voir, c'est rigolo, ils se débattent, on dirait Éric Woerth en garde à vue. D'ailleurs, l'amendement qui proposait d'interdire la castration à vif des porcelets a lui aussi été refusé. Qu'est-ce qu'elle en pense, la députée En Marche, Sereine Mauborgne?
Oui, en même temps, après, reste à savoir quel est le ressenti des porcelets en question. Je ne sais pas, je n'ai pas de notion.
Ah oui, peut-être ça leur fait plaisir.
Question-là, je crois pas. En même temps, il y a des sénateurs qui sont des anciens vétérinaires qui disent que c'est pas forcément un sujet capital.
Est-ce qu'on pourrait castrer à vif les sénateurs pour qu'ils aient un avis un petit peu plus précis?
Je vous laisse l'appréciation de ce type de propos.
Moi, je suis un homme de solution, attention. Hein. Le porc, c'est un animal qui se rapproche beaucoup physiologiquement de l'homme. Pas seulement d'Hervé Weinstein ou de Gérald Darmanin, hein, je veux dire de nous tous. Alors, tentons l'expérience, on les attire avec des petits fours aux truffes et bam, Farinelli, ça se tente. Autre amendement retoqué, on en a pas mal entendu parler, l'interdiction du glyphosate n'a donc pas été votée.
Non, parce que en fait, la promesse, elle est pour après 2020, donc ça veut dire qu'il faut continuer à travailler là-dessus, avec les agriculteurs en concertation, avec les députés qui choisissent de s'emparer de ces sujets-là.
Mais pourquoi ne pas ministère. L'avoir mise dans la loi, finalement? Parce que c'est ça qui était attendu.
Alors, en fait, ce qui est important, c'est de créer du contexte. Le mettre dans la loi pour ne jamais avoir de décret d'application, ça n'a aucun intérêt.
Ah ben non, mais là, on parlait de le mettre dans la loi pour avoir un décret d'application.
Évidemment, alors ça, on va toujours vers le... le mieux étant l'ennemi du bien. Hein.
Ah. Donc, voilà. Et on se demandait pourquoi ils votaient des conneries, c'est parce qu'ils ont peur de faire mieux. Alors l'amendement glyphosate, il faut le signaler, il a été soumis au vote hier à 1h40 du matin. Ah. Qu'est-ce qu'il en pense, le député En Marche, Mustapha Labid?
Que ce soit passé hier à 1h40, c'est un hasard de l'avancée du texte de loi. Hein,
mais au final, est-ce que c'est pas dramatique que ça ait un impact sur la santé?
Le mot est fort, dramatique.
Ouais, c'est vrai que non, mais j'ai tendance à dramatiser. Dès que je vois plein de métastases au même endroit, j'ai tendance à flipper, c'est mon côté froussard. Mais il y a pire que moi, hein. Je connais même des gens qui ont peur de faire de la chimio. Alors, c'est quand même vachement sympa la chimio, notamment au niveau des économies chez le coiffeur. Alors j'ai continué à discuter avec Mustapha qui m'a un peu expliqué comment ça se passe dans les coulisses de cette loi.
On a beaucoup de lobbies qui nous sollicitent sur ce sujet.
Mais ça veut dire que vous subissez la pression des lobbies?
Ah oui, oui, oui. Alors, sur Egalim, c'est une centaine de mails par semaine, c'est tous les jours.
Mais alors c'est des lobbies de quoi?
Des industriels et les petits mails pas gentils en notre direction pour nous rappeler qu'on est dans l'erreur.
Voilà comment ça marche. Donc tous les jours, des mails, des gentils lobbies, ça fait plaisir. Et alors pourquoi le lobbying ça marche? Eh bien parce qu'un député, c'est influençable. Alors on va prendre un exemple qu'on connaît bien, Jean Lassalle. Alors Jeannot, bon, en vrai, les animaux, il n'y a rien à taper. Ah, ils butent des ours à la machette, ils chassent le sanglier à main nue. Mais quand même, l'agriculture industrielle, il n'aime pas ça. En tout cas, il dit qu'il n'aime pas ça. Donc, il ne savait pas quoi voter. Alors du coup, bah, je l'ai aidé.
C'est-à-dire qu'on est pris au piège de textes qui n'ont ni queue ni tête.
Ah bah du coup, vous pouvez voter contre, alors?
Oui, voter contre, c'est dire que cette tentative, ne serait-ce que dans l'écriture, de remédier aux choses et à la bonne santé animale, je la refuse aussi.
Donc, ah ben bah non, là il n'y a rien qui protège les animaux.
Oui, oui, vous avez peut-être raison. Finalement, on gagne à discuter.
Alors qu'est-ce que vous allez voter alors?
laissez-moi faire. Mais je pense que je...
On vous l'espère ?
Non, je pense que je vais voter contre.
Ah ben voilà, alors faudra vérifier quand même, parce que c'est cet après-midi, c'est en ce moment. Mais voilà, vérifier c'est un travail, mais ils sont influençables. Donc autant que ce soit pour l'intérêt général, les adresses des députés sont disponibles sur le site de l'Assemblée, démerdez-vous. Et n'oubliez pas que ceux qui votent, ce sont nos oignons. Donc autant que ces oignons ne soient pas pleins de glyphosate ou pleins de plus-value pour l'agriculture industrielle. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Connu Alex, The Stranglers, Golden Brown.
Golden Brown, The Stranglers.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
On poursuit l'émission avec une nouvelle invitée. Olivia Cotte, ce qui vous permet de faire beaucoup de blagues. Hein.
Mais elle est
Côte
très sympa.
Côte de bœuf, Côte de maille, etc.
Oh là là, oh là là, c'est les vacances. Hein.
Ouais, c'est les vacances. Olivia Cotte, aujourd'hui, vous venez nous voir pour un film qui s'intitule « La fête des mères » de Marie Castille Mention-Char. Il s'agit d'une galerie de portraits de mères et de femmes, de milieux très différents, aux destins très variés, qui se croisent parfois. Votre personnage est professeur d'histoire de l'art, sans enfant. Elle sort avec l'un de ses étudiants, une femme libre, qui a des sœurs, une mère... Et avec sa sœur, elle s'occupe de sa mère atteinte d'Alzheimer. Est-ce que votre personnage est un personnage pivot ? Et si oui, pourquoi ? En tout cas, c'est le sentiment qu'il donne dans cette toute
galerie. Je ne comprends pas le mot pivot.
Bah, c'est une émission pointue, hein, donc attention.
Bah, c'est peut-être un petit fil rouge, et c'est marrant qu'en effet, dans un film qui parle de la maternité et des rapports à notre mère, ce petit fil rouge soit une mère qui décide de ne pas se reproduire. Mm-hmm. Qui va arrêter là les bêtises. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi Marie Castille a choisi que ce personnage soit un petit peu un fil rouge.
Plus un pivot, hein, on pourrait dire.
Un pivot.
Un pivot rouge.
Un pivot rouge. Un pivot rouge. Voilà. Je sais pas pourquoi.
En tout cas, c'est le sentiment que ça donne quand on voit le film, puisque encore une fois, vous l'ouvrez, vous le fermez, puis vous expliquez.
Devant une horloge. Attention, oui. L'horloge biologique, ah, la mort.
Ah, tout oui, ça. C'est une interprétation que je n'avais pas. Il faut le regarder plusieurs fois, peut-être, pour le savoir. Et il faut signaler aussi qu'il y a un casting de folie. Vous jouez aussi avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Pascal Arbillot, Noémie Merlant, Jeanne Rosa, Carmen Moura, Nicole Garcia. Donc, ce n'est pas qu'une galerie de portraits de mères. Est-ce que c'est aussi une galerie de portraits d'actrices ?
Ah, j'allais dire une galerie de portraits d'enfants.
Le fait qu'il y ait autant de couples mère-enfant, ça ne veut pas dire qu'en fait, il n'y a pas une seule bonne façon d'être une mère et une seule bonne façon d'être un enfant. Parce qu'ils sont doute, ils sont tous un petit peu des bons enfants et des bonnes mères.
Je n'ai pas compris. Non,
non parce que lui, il a fait petit.
C'était la question pivot.
Ma bonne question est tombée hier. Donc là, j'en ai plus pour la semaine.
Je vais quand même faire une bonne réponse. Je vais faire une réponse extraordinaire. On fait tous comme on peut.
Nous sommes en compagnie d'Olivia Côte qui joue dans La Fête des Mères. Et on va aborder avec vous ce premier sujet. Mark Zuckerberg est en tournée mondiale d'excuses pour avoir géré à la légère les données personnelles des utilisateurs de Facebook après s'être fait taper sur les doigts par le Congrès américain. Il a fait acte de contrition au Parlement européen. Et je peux vous dire, il a flippé. Hein. Quand il a vu Guy Verhofstadt, le redéputé belge, là, il a flippé et il a tout déballé. Hop.
En 9e, j'ai triché à la compo d'histoire et géographie. En 8e, j'ai fauché la moumoute de mon oncle masque et je l'ai collé sur ma figure pour jouer Moïse à la fête de mon cours d'hébreu. Et en 7e, j'ai fait tomber ma sœur Heidi dans les escaliers et j'ai fait punir le chien. C'est pour ça que ma maman m'a envoyé dans une colo spéciale pour les enfants trop gros. Et alors, un jour au déjeuner, j'ai craqué et je me suis goinfré et ils m'ont foutu à la porte.
Alors, c'est la version française, mais est-ce que vous avez reconnu le film?
Non.
C'est un extrait des Goonies, le film de Richard.
Oh là là,
ouais.
Oh là
là là. Une Madeleine de Proust, hein, oui. Alors, Olivia Côte, de quel œil vous voyez donc ce milliardaire de 34 ans, maître du monde, qui a foutu un bordel sur toute la planète?
Et qui s'excuse en disant pardon, j'ai pas fait exprès.
Oui, c'est ça, devant le Congrès américain, le Parlement européen.
Mais s'il est vraiment innocent, qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre? J'ai pas fait exprès, c'est tout.
Oui, c'est ça.
Ouais, en fait, c'est vrai, j'ai tout manipulé, je suis une grosse crapule, je suis au courant de tout.
Ça, il le pense peut-être, mais il,
ouais, mais il ne le dira pas.
Vous utilisez, vous, Facebook?
Oui, j'utilise Facebook, mais c'est vrai que, après, je me suis toujours posé la question, dès qu'on parle des données, et que tout d'un coup, il y a une donnée, bah, en fait, on va jamais en prison quand on dit, je suis pas d'accord avec ci, pas d'accord avec ça. J'ai jamais bien compris, cette chose-là, enfin, attends, je comprends pas.
Du point de vue de la régulation,
oui,
on pose
voilà.
Question, ouais.
Après, évidemment, Trump, il a chopé des trucs. J'arrive pas à comprendre.
En fait, une donnée, ça a de la valeur. Ouais. Ce qui fait la valeur de Facebook, c'est la donnée, c'est les informations que vous mettez sur vous sur Internet.
Mais la plupart des informations, c'est quand même des chats qui pètent et tout ça. C'est rarement des Che Guevara.
Ne me montrez pas.
Ok, les gars, on va se réunir tous à 1h du matin et on va tous les buter. Enfin,
c'est pas ça qui les intéresse. Alors, je sais pas ce qui les intéresse du coup. Ce que vous consommez, ce que vous allez voir comme page, vos centres d'intérêt. Là où vous habitez,
voilà, si on vous profile, okay. Donc c'est le reproche qui est fait à Zuckerberg aussi, c'est qu'il a revendu finalement les données à ce qu'on appelle Cambridge Analytica, qui a permis de profiler, si j'ai pas le terme, de profiler, on va dire, et de pouvoir influencer sans doute et le Brexit et les élections aux États-Unis, d'où le bordel mondial. si on devait profiler plus ou moins votre Facebook, qu'est-ce qui sortirait? Ça dépend, est-ce que vous mettez des données personnelles ou pas? Est-ce qu'on peut vous profiler?
Mais non, je mets vraiment des vidéos de Russes qui confondent leur t-shirt et leur jogging quand ils sont bourrés, quoi. Vraiment,
ah,
j'ai vu ça, ou des extraits de chantons sous la pluie de Gene Kelly qui fait des claquettes, quoi. Donc bon,
Et ce contraste entre ce mec hyper puissant qui est un des maîtres du monde et qui se fait taper sur les doigts par le Congrès américain qui semble peut-être moins puissant, le Parlement européen aussi. Et ce contraste-là, c'est des histoires qui vous parlent, qui peuvent vous amuser ou vous énervez ou...
Bah, où le mec est vraiment, on a vraiment plus rien à fiche de rien et une espèce de gars qui dit j'en ai rien à foutre, je m'excuse comme un pauvre petit enfant. Et...
Comme un cancre.
J'arrive pas à cerner cette personne, ouais. Vraiment.
Non, on voudrait vraiment, se passe dans sa tête.
On aimerait comprendre, mais je sais pas.
Et cette tournée mondiale du pardon fait étape ce soir, il faut que vous le sachiez, le patron de Facebook sera à l'Elysée, mais là c'est pour dîner. Donc peut-être juste, à part recevoir un petit coup de chipolata à la touffe sur les doigts.
Et encore.
On voit pas très très bien.
Un petit pot.
Exactement. Exactement. Allez, c'est l'heure de l'édito de Pablo Mira. Pablo, oui. Votre visage est un phare dans l'océan de ma solitude érotique. Oui. Et vous revenez aujourd'hui sur ce que vous considérez être la menace végane. Ouais.
Cette histoire s'est déroulée il n'y a pas très très longtemps, à l'époque des zadistes et des gauchistes. Les véganes étaient mesquins et cruels. Un seul viandard a osé les affronter. Pablo. Pablo possédait une mauvaise foi que le monde ne connaissait pas. mais il était poursuivi par la rancœur de son collègue, Guillaume, le tout-puissant roi des véganes. Les opprimés et Gérard Larcher n'étaient plus seuls. Ils avaient enfin un espoir. Pablo.
Allez, on y va. Charlene. Alors avant toute chose, sur le sujet, je vais être honnête avec vous tous autour de la table. J'ai un rapport compliqué avec le véganisme. Ça remonte à un drame vécu pendant mon enfance. Un jour, mon père nous a annoncé qu'il partait faire un tour chercher des topinambours et malheureusement, il est revenu. Mais en plus, je vais vous dire très honnêtement, je trouve que depuis peu, les véganes se sont de toute évidence radicalisés et agissent. Et là, je n'ai pas peur des mots, Charlene, comme des terroriste. L'autre jour, j'ai vu un poissonnier se faire agresser à coups de concombre par un vegan qui criait tofu wakbar. La folie, on délire. Leur comportement est tout simplement devenu intolérable. Tenez exemple, comme par hasard, c'est toujours à nous, les carnistes, les amateurs de viande, de nous adapter quand on va manger chez des vegans. Et quoi de plus horrible que de forcer un innocent à ne manger que des légumes? Ce serait un peu comme coucher avec une personne qui nous dégoûte physiquement, hein, ou ce que mon père appelle ma mère. Non, moi, je vous le dis, dans une société saine, Charlene, chacun devrait pouvoir se nourrir comme il le veut. Moi, je veux dire, si j'ai envie de manger de la viande, eh bien qu'on me laisse manger de la viande. Si un vegan n'a envie de manger que des légumes, eh bien qu'on le laisse manger que de la merde. Alors, au lieu de ça, les industriels cèdent au lobby vegan lâchement en nous inventant des horreurs. J'ai pas peur des mots, des horreurs comme, tenez-vous bien, ça existe, le cordon bleu végétal sans viande. Non mais un cordon bleu sans jambon et sans dinde, ça n'a pas plus de sens qu'une bouillabaisse sans poisson ou qu'un filet pêche-chébeste sans ulcère. Ça n'a pas de sens. Et puis je sais pas vous, mais moi, voilà, ça m'a toujours un peu dérangé ces choix de vie extrêmes et définitifs. Moi, ça me fait penser aux prêtres avec leur vœu de célibat et on sait les conséquences que ça peut avoir. Et voilà, moi, ça m'étonnerait pas que parfois Guillaume prenne une petite côte de porc sur ses genoux et puis lui dise dans la pénombre... Chut, ce sera notre petit secret pour qui. Mais vous savez, moi j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à comprendre que les véganes et autres végétariens étaient à ce point dangereux pour notre société. Parce que, à force d'entendre les arguments des beubeux gauchistes comme Guillaume, eh bien, de voir aussi des images d'abattoirs, eh bien, je me suis mis à avoir des scrupules d'être un viandard, même si c'est vrai qu'il existe aujourd'hui des systèmes, il faut dire, d'étourdissement efficaces, comme le fait de diffuser à l'animal une émission de France Culture. Ça marche toujours. Néanmoins, eh bien, pendant quelques temps, j'ai essayé d'arrêter la viande, mais c'était trop dur, Charlene, c'était trop dur. Il suffisait que je passe devant une rôtisserie pour avoir envie de poulet, ou j'oublie de me laver une fois pour avoir envie de crevettes. C'était la folie. Et puis j'ai réfléchi et j'ai pris du recul et j'ai compris que c'était dans la nature humaine de manger de la viande. La viande qui est un produit de qualité et que le vrai scandale, c'est pas de manger de la viande, Charlene, c'est de la gâcher, car on devrait tous avoir honte quand je vois la quantité de viande qu'on jette à la poubelle. Alors qu'on pourrait la lancer sur Vianney. Il y a des raisons d'être énervé, je vous le dis. Et vous savez, tout ça me fait penser, Charlene, que les Indiens d'Amérique, les Indiens Sioux, qui mangeaient des animaux tout en les respectant profondément, et bien ils avaient cette très jolie phrase qui disait « In haha waste tokadiaunhe ».
C'est très beau, mais ça veut dire quoi?
Plus jamais de film avec Kevin Costner. Alors, au-delà de la portée éthique et morale de la question « faut-il être vegan ?», moi, je peux vous apporter une réponse en termes de santé, tout simplement. Régime vegan, c'est simple, égal carence en vitamine B12, une vitamine essentielle pour la santé humaine, puisque son absence de vitamine B12 provoque, je vous lis la liste des symptômes, problèmes digestifs, anémie, troubles nerveux, mais surtout l'apparition précoce de cheveux blancs. Alors, de grâce, Guillaume, arrêtez cette folie végane, sinon dans 2 semaines, tout le monde vous appellera Dumbledore. Pour conclure, moi, j'aimerais apporter mon soutien moral à ceux qui souffrent le plus de l'hystérie végane. Ce sont les éleveurs qui sont en première ligne, car ces gens font un métier difficile. Et je peux vous dire qu'il faut un moral d'acier pour massacrer des êtres doués de sensibilité, pour ensuite les vendre à des êtres qui en sont dénués, tout simplement. Allez, salut.
Merci, Pablo, Mira. Allez, on poursuit, Olivia Côte. Ce dernier sujet avec vous, ce sont les mères françaises qui sont celles qui allaitent le moins au monde, paraît-il. Alors les professionnels de santé réclament des campagnes pédagogiques pour parler des bienfaits de l'allaitement, tandis qu'en Suisse, l'allaitement dans les lieux publics fait débat, parfois en France aussi. En tout cas, Lausanne préconise l'aménagement de lieux spécifiques pour ne pas voir sortir un seul nibard. Encore un casse-tête réservé aux femmes, bien sûr. Alors pour ce qui est des hommes, vous savez, leur pudeur annihile immédiatement la question.
Aïe! Non mais ma fillotte, que fait ton mari cul nu devant cette femme? Elle lui frotte le fessard.
Hub, c'est une infirmière qui fait une piqûre.
Oui, qui sort lui? Je voudrais bien qu'on me fasse ma piqûre tranquille.
Aïe !
Excusez-moi, docteur.
Excusez-nous.
Ah non, merde ! C'est un hall de gain ou quoi ? Je vais faire payer la visite.
Oh, pardon. Le dentiste s'est fait mal ?
Oui.
J'en ai marre qu'on me reluque le cul !
Et Lampien, mais tu deviens parano, personne regarde.
Alors, par où commencer ? Parce qu'il y a une scène d'anthologie dans le film, mais je ne sais pas si on a envie de la dévoiler.
Non.
Il y a une question d'allaitement, en tout cas, si on peut dire qu'il y a...
Oui, question d'allaitement. Bah, voilà. Mon personnage n'a pas d'enfant, est un peu crispé par le côté « les femmes qui ont des enfants sont supérieures aux autres ». Et son amoureux, donc, il y a 15 ans moins qu'elle, à chaque fois, tu imagines qu'elle a des histoires d'amour qu'avec des jeunes gens pour avoir la paix. Et celui-là, malheureusement, veut faire un enfant avec elle. Donc, c'est vraiment la tuile. Et elle accepte d'aller à un dîner au bout d'un an de relation avec des gens qui sont jeunes aussi, qui ont 25-26 ans. Et cette femme sort son sein.
Sans poser la question, est-ce que ça vous ennuie pas ?
Et puis même, elle est assez désagréable, elle traite son gars vraiment comme à moins que rien. Bon. Et à un moment donné, mon personnage la provoque très fort, est très agressive avec elle, surréagit un peu à ça. Ouais. Devient un petit peu.
On peut ne pas en dire plus parce que c'est.
Stop. Ouais, c'est vous voulez pas en dire à la base.
Stop. Oui, mais voilà, c'est juste qu'elle.
Mais justement, ça résonne vraiment avec épidermiquement l'actualité nous reparle de ça, de dire tiens, il y a une femme qui a allaité son enfant dans un train, ça a choqué quelqu'un, etc. Apparemment, en Suisse, ça fait un peu débat, d'après ce qu'on a pu lire à travers le courrier international qui relaie les papiers en Suisse.
C'est comme le voile, tu fais ce que tu veux, ma grande. Ouais, et bim, voilà. tu montes ton sein ou pas, tu montes tes cheveux ou pas, tu gères. Comme tu peux, comme voilà. Tu veux.
Non, mais la question est peut-être. On peut peut-être inverser la problématique. C'est-à-dire que peut-être il y a des femmes qui allaitent qui aimeraient bien être tranquilles,
aussi,
pouvoir le faire tranquillement.
Ouais. Qu'est-ce qu'il est sensible, non, c'est symbolique. Mais vous avez été une femme dans une vie antérieure.
Oui,
c'est
tout
pas possible.
À fait, j'ai été une femme. Mais quelle femme ?
Non, mais après, si t'es très pudique et que tu veux allaiter et que tu sens que t'es dans un endroit où vraiment les gens vont être choqués, tu prends un petit linge et puis c'est tout.
Oui,
une cape d'allaitement. Ouais,
j'ai aucun jugement sur les femmes qui allaitent. Je m'en fiche, elles font vraiment ce qu'elles veulent.
Olivia Côte, on a un petit sketch à vous faire jouer, si vous êtes d'accord.
En fin d'émission, attention, l'invité travaille. Vous êtes professeur d'école et c'est le résultat de Parcoursup qui tombe. Et nous trois, nous sommes élèves et vous allez nous donner les résultats. Madame, vous avez les résultats de Parcoursup ?
Oui, je les ai.
Et on peut les avoir, madame, s'il vous plaît, madame.
Tu veux surtout bien me calmer.
Allez, madame !
Vous faites le silence, j'en prends un pour taper sur l'autre. Bon, on va commencer avec toi, Mauricio.
Ouais !
Qu'est-ce que tu avais demandé comme filière ?
Lettres classiques en 1, histoire en 2, philosophie en 3.
Ah !
Bah quoi ?
L'algorithme t'a inscrit en sport et études, section football.
Non, mais moi je voulais me spécialiser sur Jean de La Fontaine.
Ah bah, tu iras t'entraîner à Clairefontaine.
Ah, le seum !
Calme-toi, ton tour arrive.
Moi, madame, je suis super bon, donc je suis un super bon élève, quoi.
Alors, Ferdinand.
Ouais, alors moi, je suis demandé Sciences Po, Norma Sup et Lona.
C'est bien de croire en tes rêves, Ferdinand.
Bah ouais, j'y croyais toujours en mes rêves, moi.
Mais tu n'as pas demandé des filières moins sélectives.
Bah, pourquoi faire, madame ?
Aucun ton dossier ne les convaincrait pas.
Bah attends, madame, aucun risque.
Tu es sur liste d'attente.
Bah attends, madame.
Oui, bah non, c'est toi qui vas attendre.
Mais attends, je suis combien tième ?
17 585e.
Mais madame, sur combien ?
Sur 500 238 élèves sur liste d'attente.
Mais ça n'a pas de sens, madame.
Arrête de m'énerver, c'est l'algorithme.
Mais il y a combien de places à pourvoir ?
15.
Ah ouais, il n'y a pas d'explication ?
Bon, on passe à toi, Jennifer.
Ouais !
Qu'est-ce que tu avais demandé ?
J'avais demandé esthéticienne.
Ah.
Bah quoi ?
L'algorithme t'a inscrit en physique quantique.
Ah, la physique, ça va, mais la physique, bah, je suis pas Stephen King, moi.
Stephen Hawking.
Ah.
Bon, ça va, tout le monde est content ?
Bah, bon.
Écoutez, la vie réserve parfois des surprises. Parfois, on n'est pas du tout fait pour un gros job et la vie vous le donne quand même.
Ah bon ?
Bah oui, vous croyez que numéro 2 de Radio France, c'était le premier choix de Guy Lagache ?
Il a toujours la guitare que le démange.
C'est Frédéric Fromet, évidemment. Et on revoit l'actualité avec lui. Actualité qui avait été marquée en son temps par le changement de limitation de vitesse sur les départementales. On était passé de 90, 90 à 80. Et ça s'est intrigué, Frédéric Fromet.
Ah, 80 km/h, j'ai pris une voie de fossé. Dans automoto, les gens sont en pleurs. On veut pouvoir rouler à donf avec 3 grammes dans le sang. on veut pouvoir rouler en fumant un joint, en téléphonant. Alors, les contredanses, on s'en balance. Faut bien que vivent les urgences, les croque-morts. Ah, 80 km. François Hollande me double à scooter. Ah, 80 km. Et puis ça me fait une voix de bonne sœur. Pauvres auditeurs, on n'est pas des princesses. Le tunnel sous le pont de l'Alma nous fait pas peur. On veut de la vitesse, on n'est pas des branques sur des skis comme Schumacher. Les yeux fermés dans les virages, pourvu que rien n'arrête le voyage. Ah, 80 km. Gilbert Montagné dit que c'est une erreur. Ah, vivement que ça termine, 80 km. On n'est pas tous des nuls comme les Uber. Toujours plus vite, tant pis si on meurt.
On approche tout doucement de 18h, c'est bientôt la fin, c'est dans quelques secondes
l'heure
même.
L'heure de dire au revoir.
Juste au revoir et de dire demain.
À demain, qu'est-ce qu'on a demain au programme ?
Henri Dess et Alice Poisson.
Camille, tu veux pas une boule vanille ?